Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard avec aujourd'hui à la prise de son Olivier Dupré. 2 ans après la légende des montagnes qui naviguent, où il retraçait son périple de 8000 km le long des Alpes, l'écrivain voyageur Paolo Rumiz revient avec un nouveau récit de voyage, et un voyage cette fois à l'intérieur de son pays, l'Italie, empruntant les 612 km de la Via Appia, la diagonale légendaire reliant Rome jusqu'à la côte adriatique. On a coutume de dire que tous les chemins mènent à Rome. Paolo Rumiz rectifie le dicton en disant « tous les chemins partent de Rome ». Celui qui fut longtemps grand reporter à la Repubblica est mon invité aujourd'hui. Son livre « Appia », traduit de l'italien par Béatrice Vierne, est édité chez Artaud.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Paolo Rumiz. On va parler d'histoire et de géographie et de ces 24 siècles de la Via Appia, la première, l'incroyable voie de l'Empire romain, la première route qui relie Rome à Brindisi, c'est-à-dire l'embarquement à destination de l'Orient pour naviguer vers la Grèce, la Turquie, la Syrie. Alors Appia, la mère de toutes les routes, il vous a fallu quelques 29 jours de marche pour parcourir les 612 kilomètres de l'Appia et un livre de près de 500 pages pour faire vivre au présent l'histoire de ce parcours mythique et de ce qu'il est devenu, avec une envie, dites-vous, qu'une armée de voyageurs vienne à leur tour suivre ce fil d'Ariane qui serpente à travers les splendeurs de l'Italie méridionale.
Surtout s'ils sont étrangers, parce que les Italiens ont des difficultés à comprendre l'importance de cette voie. Donc j'espère que si les Italiens ne comprendront pas ça, les Allemands, les Français, les Anglais viendront pour l'envahir, pour rétablir l'ancien parcours, parce que c'est les pieds qui font la voie, c'est pas la décision d'un ministère.
En tout cas, la Via Appia n'existe pas, ou si peu, hein, puisqu'il y a des autoroutes, des constructions, des ravins, des chemins de fer qui cachent le tracé. La Via Appia, pour l'arpenter, il faut aussi la chercher, contourner des voies ferrées, traverser des champs, escalader jusqu'à 900 mètres d'altitude en empruntant des petites routes en zigzag, tout ça. Et vous le racontez tout ça très bien. Mais la Via Appia, elle a disparu?
Pas totalement. J'ai eu l'impression, en marchant sur cette ligne mythique, qu'elle était comme une baleine qui s'enfonçait dans la mer et de temps en temps retournait en surface. Mais c'est toujours les pieds qui savaient deviner la ligne d'immersion de la baleine. Donc on la retrouvait toujours parce que c'était les pieds qui la retrouvaient, pas la tête. Donc ça a été un voyage à double face. D'un côté, j'étais ancré à la terre avec le poids, mon poids. De l'autre côté, j'étais avec la tête dans les nuages, un peu comme un cerf volant. Donc ça a été un voyage en même temps très concret et de l'autre côté très visionnaire.
Alors vous avez beaucoup hésité avant d'accomplir ce périple, Paolo Rumiz. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à faire ce parcours ?
J'avais jamais fait un grand voyage à pied. Je pense que les pieds sont le meilleur moyen pour connaître les lieux. Donc j'attendais le moment et le moment était venu. Donc je décidais de partir. Si je ne marche pas, je ne suis pas capable de penser et d'écrire. Je pense qu'on écrit avec les pieds et pas avec les mains. Donc j'avais envie de partir et il y avait cette opportunité incroyable. Il y avait la voie numéro 1. Des voies modernes européennes qui étaient là à disposition, complètement oubliées. Et je me suis dit, voilà, un patrimoine national complètement oublié. Il faut le rendre pour une raison civique avant que l'être littéraire le rendre à la nation.
Pourquoi c'est vraiment la première route d'Europe, Appia?
Oui. La première route moderne, ça veut dire construite avec une base forte, avec de pierre, avec...
Qui a construit la Via Appia?
Un homme qui s'appelait Appio Claudio Cieco, ça veut dire Appio Claudio l'aveugle, qui est un homme exceptionnel, qui a décidé de faire cette route, avant tout pour une raison politique. Alors, au début, c'était seulement la route avec laquelle il pouvait permettre à ses clients du sud de rejoindre Rome pour le voter. Donc c'est une voie extrêmement moderne à ce point de vue. Mais après, la ligne est devenue la direction est-sud-est de l'expansion romaine vers la Méditerranée et surtout vers des pays qu'aujourd'hui nous échappent, comme la Libye, comme le Levant. Donc aujourd'hui, il y a plein d'inquiétudes, de guerres, de problèmes, de migrants. Et dans ce temps-là, et cette voie, c'était la voie à travers laquelle l'Empire contrôlait une bonne partie de la Méditerranée.
Que reste-t-il du tracé de l'Empire romain ?
Les Romains nous ont laissé 4 000 kilomètres de voies organisées. C'est une énormité, ça veut dire une fois et demi le tour du monde. Et cette voie, même si c'était la numéro 1, elle a été une des premières à être oubliée parce que elle était tellement belle, tellement rationnelle qu'elle était immédiatement couverte de voies nouvelles, de voies successives. Les papes, les princes du Moyen-Âge l'ont exploitée au point qu'elle a disparu. Mais de temps en temps, elle est visible. Donc, ce qui importe, c'est pas l'archéologie, c'est la ligne. Donc, moi, j'étais hypnotisé par la beauté de la ligne, par la facilité avec laquelle elle dépasse les montagnes, toujours d'une façon extrêmement rationnelle et facile. Aujourd'hui, si je vais de point A au point B, avec les voies modernes, la ligne est toujours plus longue et plus compliquée, elle te désoriente.
Alors, à quoi ça sert d'être moderne, d'avoir inventé les autoroutes, le chemin de fer, Paolo Remise?
Pour faire du béton, pour payer des clients.
Dans votre livre Appia, Paolo Remise, vous racontez à la première personne ce périple, mais on sent bien que c'est un prétexte pour arpenter les villes et villages de l'Italie d'aujourd'hui, de discuter avec les archéologues, de rencontrer les paysans et les bergers, d'écouter un élu vous expliquer que sous le fascisme, le patrimoine culturel était plus surveillé qu'il est aujourd'hui, sous la démocratie. Mm-hmm. L'idée, c'était quand même de raconter le monde d'aujourd'hui à partir en empruntant une voie historique.
Si. Mais la chose principale que j'ai vue, c'est que la voie à travers laquelle Rome imposait son domaine sur le monde de ce temps-là, aujourd'hui est devenue une voie interprétée dans les sens envers, à travers laquelle la criminalité du Sud entre dans la capitale. Donc vous savez qu'à Rome, il y a beaucoup de problèmes avec la Camorra, et la Camorra a suivi la Via Appia pour entrer à Rome. On les voit. C'est pas l'autoroute là où tu vois ce qui se passe, mais si tu marches à pied tout au long d'une vieille voie, tout lentement, tu parles avec les gens, tu t'aperçois beaucoup de choses qu'un automobiliste qui s'en va très vite et ne comprend pas. Donc moi j'ai vu le point faible de l'Italie en marchant sur la Via Appia.
Au fur et à mesure de votre périple, qui a duré 29 jours, je le rappelle, Paolo Remise, quelle Italie se dessine alors? Parce que c'est l'Italie d'aujourd'hui que vous nous racontez dans ce livre.
C'est l'Italie du centre-sud,
ouais.
Où on voit disparaître l'influence des Roms après 20-30 kilomètres. C'est incroyable, les souvenirs des Roms, même les souvenirs historiques, s'évanouissent. Il réapparaît un instant Capua, dans la partie de Capua, mais après, ça disparaît complètement. Le souvenir de la Grèce, de la Magna Grecia, est beaucoup plus fort. Le souvenir du domaine allemand de Frédéric II est encore aujourd'hui rappelé avec beaucoup de sympathie. Le souvenir de l'Empire d'Orient, de l'Empire romain d'Orient, mais Rome en soi-même, elle disparaît.
Qu'est-ce qui fait que les vestiges de Rome disparaissent de Via Appia?
C'est pas un problème de vestiges. Moi, j'ai dit un problème de mémoire. Les gens ne sont pas conscients d'appartenir à Rome. Je pense qu'il y a une très ancienne rancune contre la domaine romaine. Le peuple italique n'ont jamais aimé Rome.
Et vous, quand vous rencontrez ces gens, ces villageois, ces bergers, ils vous voient en tant que Romain, Paolo Rumise ? Vous êtes l'homme qui vient de Rome ?
Non, je suis l'homme qui vient du Nord, ils sont des gens du Sud, et ils sont très émerveillés de voir un homme qui vient de loin, et qui traverse avec humilité, à pied, leur territoire. C'est que pour eux, c'est absolument étonnant. Alors ils disent, mais si un homme vient de si loin pour marcher à pied, comme ça, avec un sac à dos, avec la barbe blanche, donc un homme d'un certain âge, ça veut dire que notre territoire, il est beau, donc il faut qu'on l'aime. Et ils n'ont jamais pensé que le territoire qui leur appartient, c'est un territoire qui mérite d'être aimé. Donc il y a un détachement de peuple italien du Sud de la légende à laquelle ils appartiennent.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
In mezzo agli alberi c'è una casa bianca. Fuori città. Compagni al vento con edera e gerani. Felicità. Ben su, la vita è leggera, il bel tempo dura, in fuori da e non finisce più. Tanti bambini e tanti cani, quanti ce n'è? Ci sono gatti, fringuelli e tartarughe, chissà perché. Si direbbe il sud. Il bel tempo dura, milioni d'anni blu. E non finisce più.
Appia de Paolo Rumise, édité chez Artaud. Appia, c'est le nom de cette voie royale, la mère de toutes les routes. Après 612 kilomètres parcourus en 29 jours de marche, avec les 23 siècles d'Appia, parce que vous racontez aussi bien l'histoire de cette route qui mène de Rome jusqu'à la Méditerranée, et vous racontez aussi la géographie de l'Italie d'aujourd'hui, Paolo Rumise. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose de spirituel dans votre démarche? Parce que vous faites souvent le parallèle entre ce que vous avez fait en parcourant Appia avec le chemin de Compostelle.
Oui, il y a une grande différence entre le chemin de Saint-Jacques et de la Via Appia. Le chemin de Saint-Jacques, on peut le faire seulement vers Saint-Jacques. Et c'est insensé de le faire dans la direction contraire. Tandis que la Via Appia peut être faite dans les deux directions, et pas seulement. C'est la voie à travers laquelle les légions contrôlaient la Méditerranée, mais c'était aussi la voie à travers laquelle, dans la direction contraire, les marchandises venaient de la Méditerranée vers Rome. Donc c'était une voie stratégique, une voie commerciale, une voie religieuse, parce que Saint Paul et Saint Pierre sont passés de là. Quand Auguste est mort, on a porté son corps à travers la Via Appia jusqu'à Rome. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, pour moi, la Via Appia est énormément supérieure au chemin de Saint-Jacques. Mais de toute façon, on avait l'impression d'être dans une ligne de laquelle se séparent des lignes plus petites qui portent à un monde archéologique infini, et pas seulement archéologique, mais on trouve les signes de la Deuxième Guerre mondiale, la retraite des Allemands, on trouve les prisons où les Bourbons ont emprisonné les libéraux, on trouve les signes de Frédéric II. Donc c'est toute l'histoire de l'Italie qui passe à travers la Via Appia, était visible à travers ça en la Via Appia.
Enfin, toute l'histoire de l'Italie et l'histoire présente de l'Italie, Paolo Rumiz, parce que avant d'être l'écrivain voyageur primé, archi-primé, vous avez même eu le prix Nicolas Bouvier en 2015, vous avez été journaliste pour un très grand journal italien qui est La Repubblica. Et là, on voit que vous, alors que c'était peut-être pas le but de votre voyage, de ce livre Appia, mais on voit bien que vous donnez la parole à des Italiens qui sont oubliés par le pouvoir central de Rome. On a l'impression qu'au fur et à mesure que vous vous éloignez de Rome, vous rencontrez des Italiens oubliés par les services publics.
Mais la chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est de constater qu'une voie qui était le centre de la Méditerranée, maintenant est devenue la périphérie totale de l'Italie. Et les gens qui habitent cette ligne, c'est sans oublier du pouvoir, oublié de la politique. Vous savez, l'Italie, c'est un pays montagnard. Il y a une énormité de montagnes. C'est un labyrinthe qu'il faut traverser. Et bon, on voit très clairement que la montagne commence à être abandonnée, que tout le monde se déplace vers les côtes, vers les grandes villes. Donc il y a une désertification des lieux. Et c'est pour ça que redonner à ces gens-là une dignité mythique à travers ces passages peut aider à créer un patriotisme italien du Sud qui est un peu alternatif à la nostalgie des Bourbons.
Et aujourd'hui, l'Italie d'aujourd'hui, elle n'est pas empêtrée dans un nationalisme dangereux, aussi bien pour l'Italie, pour l'Europe, que pour vous, Paolo Rumiz, qu'est-ce qui se passe en Italie? S'il fallait vous poser cette question à vous, qui êtes italien, ancien grand reporter, qu'est-ce qui se passe en Italie aujourd'hui?
Je pense que le succès des populistes vient du manque d'écoute des périphéries. Les périphéries, comme les Apennins, comme la Via Appia, tous ces territoires-là, ont été oubliés par la politique. Donc, les populistes donnent aux périphéries oubliées, aux banlieues du pays, un mégaphone de leur malaise, de leur rancune, tandis qu'une solution. Mais le mégaphone, c'est quelque chose, c'est mieux que rien, c'est mieux que le silence. Et donc un manque d'une réponse, le mégaphone gagne dans la bataille politique. Je dois dire une autre chose aussi, que de fur et à mesure que j'avançais, j'avais l'impression que la présence de l'État s'évanouissait. De fur et à mesure que je vivais ça, j'avais aussi l'impression que...
Quand vous dites que ça s'évanouissait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de services publics, il n'y a plus d'écoles, d'hôpitaux, de transports?
C'est ça. Ouais. Ça marchait de pire en pire, mais tout ça était magnifiquement compensé par la température humaine des gens qui nous aidaient. On n'avait pas d'eau, bon, on trouvait toujours sur la route quelqu'un qui nous donnait de l'eau.
Et les gens que vous avez rencontrés durant ces 29 jours de marche?
Des gens incroyables. Surtout dans les lieux plus malfamés, par exemple la fameuse Gomorra racontée par Roberto Saviano, où nous sommes entrés avec un peu
d'appréhension, on comprend, et vous racontez ça très bien. Ouais.
Ah oui, mais on a trouvé des paysans très sympas qui nous ont donné de l'eau, qui disaient « Venez, asseyez-vous, où allez-vous, racontez-nous votre histoire, comment vous appelez-vous, prenez de l'eau, prenez de la nourriture et faites attention, parce que pas tout le monde est comme nous. Vous pouvez trouver des bonnes gens et aussi des mauvaises gens. » Alors il avait le cœur dans la main pour nous.
Et en même temps, vous ne ressemblez pas à un migrant classique, Paolo Rumiz, vous parlez italien.
Savez, aujourd'hui, tous les gens qui portent, une personne qui porte un sac aujourd'hui, qui s'y déplace en Europe, peut provoquer des réactions très étranges. Sympathie, indifférence, de temps en temps aussi de la haine. Il y a des gens, des amis à moi, qui sont en train de terminer le Tour d'Europe à pied, 12 000 kilomètres. Ils ont repéré une classifique, on peut dire.
Une classification?
Ils ont une classification de l'hospitalité de différents pays.
Et alors?
Et alors, la France est sortie très bien, parce qu'ils disent c'est le seul pays où, quand nous marchions, les gens nous saluaient les premiers, sans attendre que c'était nous à dire bonjour. Donc, un pays accueillant, il y a d'autres pays qui le sont beaucoup moins. Il y a beaucoup de surprises, par exemple, l'Allemagne. Il y a des gens qui nous, ils nous ont nié l'eau.
Et l'Italie, dans tout ça?
Ils n'ont pas traversé l'Italie, ils la connaissaient déjà trop.
Et ce livre, Appia, Paolo Remis, édité chez Artaud, se termine carrément par un guide très pratique de comment emprunter la Via Appia en 29 jours, ou coucher, hein, c'est-à-dire vous donner aussi des détails, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on mange bien d'ailleurs à travers votre périple.
Oui,
il y a un côté guide qui termine votre récit.
Oui, il faut dire que ces voyages... Nous avons informé le ministère de ce voyage et on nous a immédiatement demandé de venir à Rome. On lui a donné l'itinéraire et ils ont approuvé un plan de dépenses de 20 millions d'euros pour aménager la voie. Et dans quelques jours, les travaux commencent. Donc, pour la première fois, j'ai écrit un livre...
Qui a changé les choses,
incroyable.
Quand vous dites le ministre, c'est le ministère du tourisme, je suppose?
Non, le ministère de la culture.
De la culture.
Redonner une dignité...
Pour redonner une dignité à Via Appia, et une visibilité.
Et une visibilité aussi. Il faut donner aux marcheurs et aux cyclistes la possibilité de la faire sans problème. Mais beaucoup de gens se sont enthousiasmés dans les territoires. Vous savez, les voies peuvent survivre seulement si les territoires comprennent que la voie leur appartient. Et alors, ils la soignent.
Merci Paolo Remis d'être passé dans le Réveil culturel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Appia, c'est édité par Artaud. Une invitée surprise ce matin, Auriane Joncourt. Je ne sais pas si vous êtes une grande marcheuse, mais je peux dire que vous êtes une grande lectrice.
Ah oui, absolument. Mais l'un va bien avec l'autre.
Oui, d'autant plus que si ça se trouve, cette excellente interview que vous avez réalisée pour votre magazine Transfuge avec Siri Usveld, vous l'avez fait en marchant, en arpentant je ne sais quel quartier parisien ou new-yorkais.
Plutôt new-yorkais, parce que c'est un vrai et beau livre sur New York. Et c'est vrai qu'elle fait revivre un New York des années 70-80 qu'on a l'impression de connaître. Quand on y va, d'ailleurs, on a l'impression d'en voir les traces, de reconnaître les rues de ce New York à la Bowie, devenu mythique.
Vous parlez bien sûr de Souvenirs de l'avenir, son dernier ouvrage édité chez nous par Actes Sud.
Absolument. Mais voilà, elle livre vraiment son New York, le New York qu'elle a connu à 20 ans en arrivant donc en tant que jeune fille du Minnesota. Quand elle arrive à New York, elle a 20 ans, elle veut devenir quelqu'un, sans doute une écrivain, et elle va découvrir dans cette ambiance interlope, dangereuse et en même temps fascinante qui était celui de New York de la fin des années 70, eh bien elle va découvrir qui elle est et puis elle va découvrir aussi la persistance d'un certain patriarcat, comme elle le dit, dans le milieu intellectuel et dans le milieu new-yorkais. Et donc voilà, moi j'ai été absolument fascinée par l'histoire de cette femme, l'histoire de Siri Usveld, qui n'est pas son histoire, parce qu'en vérité, et c'est là le grand intérêt de ce livre, c'est que ce sont des fausses mémoires. Oui, elle est arrivée à 20 ans. Oui, elle venait du Minnesota. Oui, elle voulait devenir écrivain. Oui, elle a rencontré un certain nombre d'hommes face à qui elle a dû s'imposer. Mais non, les personnages de ce livre, ce n'est pas elle et ses amis. Ce sont des gens qui ressemblent, mais ce sont des fictions. Et donc voilà, c'est de ça qu'on a parlé avec Siri Usveld. Quand on s'est vu, on a parlé de littérature, de fiction, de femmes, d'autobiographie. Et je crois que voilà, c'est
Et elle vous dit que les femmes puissantes sont inquiétantes.
Oui, 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 c'est ça sa grande idée du livre, c'est que voilà, elle arrive à 20-25 ans, femme intellectuelle qui veut devenir une femme puissante parce qu'une artiste, et elle va se heurter à un certain nombre d'hommes qui, face à cette grande blonde venue de nulle part, la prennent de haut, essayent de la rabaisser, essayent de l'humilier, et elle va expliquer que cette puissance, qui est une puissance intellectuelle, eh bien, elle va la développer un peu envers et contre ce mur du patriarcat. Alors évidemment, qui était beaucoup plus solide dans les années 70 qu'il l'est aujourd'hui.
Même à New York, quand même. Hein.
Et même à New York, c'est et ça. Même dans ce monde, etc. Intellectuel, qui était plus solide à l'époque qu'aujourd'hui, mais qui tout de même, elle dit dans notre entretien, demeure parce que il est difficile encore aujourd'hui pour une femme de penser librement, sereinement, dans toute sa puissance, sans être critiquée comme une femme de tête, comme une femme arrogante. Enfin, c'est comme ça qu'elle le perçoit.
Passionnant ouvrage donc à lire, celui de Cyrie Svelte. C'est édité par Actes Sud, Souvenir de l'avenir, et c'est traduit de l'anglais par Christine Leboeuf. On se retrouve dans très peu de temps, Auriane Jeancourt, et cette fois-ci pour parler des prix littéraires. À très vite.
À très vite.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et nous, on se retrouve demain, si vous voulez bien, autour de l'exposition de l'artiste Youssef Nabil. Passez une bonne matinée sur France Culture.